Dans votre connaissance des épisodes de Tibérie, il en est été tenté de faire un parallèle avec l'épisode de Médée, le couvent des femmes. Les religieuses ont été jamais sur eux.
Disons, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur.
Nous avions la loi de censure sur place, mais nous savons toutes ces petites choses.
Oui, c'est un des problèmes, si vous voulez, c'est que l'information fait partie de ce petit jeu, c'est-à-dire qu'on dit ce qu'il faut au bon moment. Bon, là, j'ai pas de scoop sur cette question-là, mais ce que vous dites est très juste, c'est-à-dire que bon, les informations aussi sont distillées quand ça arrange. Par exemple, quelque chose qui a beaucoup troublé un certain nombre de gens en Algérie, c'est que. Comme par hasard, à la mort du cardinal Duval, on retrouve les corps des frères, qui en fait n'étaient que les têtes des frères, ce qu'on s'est bien gardé de dire au début. Bon, c'est curieux. C'est une manière de faire passer tout ça d'un seul coup, sans qu'il y ait trop d'histoire. C'est bizarre. C'est pas les corps, le cardinal Duval décède, et l'heure d'après, Père Tessier, on a retrouvé les corps. Donc il y a une gestion de l'information, vous avez raison de le dire, qui est très contrôlée, et qui certainement, parce que la logique du terrorisme, c'est les images, l'information, à mes yeux, je crois qu'une fois on avait une prière à la paroisse à l'occasion de l'anniversaire de la mort des frères, et donc le prêtre invite à prier pour les martyrs de je ne sais plus ce qu'il avait dit, de l'intégrisme religieux, etc. Mais moi, j'ai ajouté les martyrs du terrorisme d'État. Parce que le terrorisme d'État, il existe dans le monde, pas seulement en Algérie.
Mais actuellement, on sait qu'à Alger, il y a beaucoup de travailleurs chinois qui travaillent dans le bâtiment ou dans les routes, etc. Il semble qu'il n'y ait pas de problème avec cette communauté qui est installée là. Alors que, bon, c'était peut-être pendant les années terribles, mais je me rappelle qu'il y avait eu des assassinats de Croates qui travaillaient là-bas, de gens qui travaillaient pour des sociétés d'ingénierie américaines, je crois. Comment pourrait-on expliquer la différence de traitement? Enfin, évidemment, on n'est pas à la même époque. Et pourquoi semblerait-il que les Chinois, par exemple, soient plus acceptés que les gens qui avaient une confession
religieuse? Il y a plusieurs éléments de réponse. D'abord, en décembre 1993, l'ultimatum, il y avait un ultimatum donc, du GIA, donc à une période assez précise donc, de l'histoire de l'Algérie, contre les étrangers, comme tactique donc pour faire plier le pouvoir. Donc s'il y avait une discussion, il y a plusieurs courants dans l'islam politique radical en Algérie, ceux qui voulaient jouer les élections, et puis ceux qui étaient pour une prise de pouvoir armée. Et donc quand l'armée a décidé de faire annuler le deuxième tour des législatives, évidemment ça a renforcé le camp de ceux qui étaient pour une action violente en disant voilà, on vous l'a bien dit. Et donc ça coïncide à ce moment-là donc avec une montée de la violence et. On s'en est pris d'abord aux musulmans algériens, pour commencer, et puis après, pour causer encore plus de problèmes, on s'est dit on va faire pression à la fois sur les investissements étrangers, ça va encore affaiblir le régime. On va aussi faire des trucs un peu spectaculaires pour que l'opinion catholique ou européenne, américaine puisse s'émouvoir un peu la situation. Et donc il y a eu ces attentats ciblés contre les étrangers. Donc ça, c'était une stratégie. Soit c'était la vraie stratégie du GIA, soit c'était une stratégie télécommandée par des services algériens eux-mêmes, je ne me prononce pas sur la question. En tout cas, donc ça a duré un certain temps, et puis à un moment donné, ça s'est arrêté en 96 avec la mort des frères et la mort de Père Clavé. Donc on n'est pas dans la même séquence de temps actuellement, donc tant mieux pour les Chinois. Il y a un autre élément, c'est que par exemple, les Croates qui habitaient à 3 km du monastère et qui ont été tués en 1993, le motif, voilà, c'était qu'ils étaient chrétiens et que c'était une nation en guerre contre les musulmans dans les Balkans. C'est ça le motif. Voilà. C'est du Kosovo. Et donc les Chinois ne sont pas en guerre contre les musulmans. J'allais y venir. Donc, je souligne d'abord les différences. Après, sur effectivement l'idée que les Chinois sont bien recteurs, là, madame, vous faites allusion aux conditions de travail des Chinois. Les conditions de travail ne sont pas imposées par les Algériens, mais sont imposées par les Chinois eux-mêmes. C'est-à-dire que ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient des gens en mission en Algérie, et puis ils travaillent, ils travaillent. Alors, les Algériens, oui, j'ai pas mal d'amis algériens. Je trouve ça formidable qu'il y ait des immeubles qui poussent comme ça en 3 jours. Et le travail, il est bien fait, il réalise bien quand il y a des secousses sismiques, donc tout va bien. Bon, le problème, si vous voulez, c'est quand vous avez 40% de chômeurs, vous dites que bon, c'est un peu bizarre comme manière de traiter le problème de la dimension sociale. Donc qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que les jeunes Algériens, on va les laisser à tenir les murs, là, les hitis, comme on dit, en Algérie, il y avait une blague au lendemain de la chute du mur de Berlin, les jeunes d'Alger disaient « Ah, vous auriez dû garder, nous passer le mur, parce que nous, on les tient le mur ici. » Donc, ils n'ont rien à faire. Donc, ça, c'est un aspect du problème, et c'est vrai que ces travailleurs chinois sont super exploités. Et il ne faut pas croire que tous les Algériens se réjouissent de leur présence. Je peux vous le dire aussi, c'est que c'est de plus en plus un problème aux yeux des Algériens. C'est-à-dire que, bon, un Chinois, ça va, deux Chinois, ça va, mais bon... et alors, il y a une chose, si vous voulez, que je pense qui va se produire probablement dans les décennies qui viennent, c'est que l'Afrique, pas simplement l'Afrique du Nord, mais l'Afrique subsaharienne, va se réveiller un beau jour en se disant, entre dictateurs, on s'est bien entendu, là, parce que ce qu'il y a, c'est que les Chinois, si vous voulez, pas simplement l'usine clé en main, mais ils vous offrent aussi le palais présidentiel en bonus, hein, ça ne leur pose aucun problème. Donc, le jour où ils vont se réveiller, non seulement ils nous fabriquent nos trucs, ils font de l'argent, ce qui est leur droit, mais c'est qu'ils laissent les Chinois sur place aussi. Donc il est possible qu'à un certain moment, l'opinion algérienne et l'opinion africaine de manière générale se disent que bon, bah, les Européens nous ont colonisés, mais il faut peut-être qu'on s'interroge aussi sur la présence chinoise. Bon, ça, c'est des questions que je me pose, mais c'est des questions qui sont déjà posées là-bas. Voilà. Donc, il n'y a pas eu d'assassinat, vous avez tout à fait raison. Ils ont assisté au protège bien, etc. Mais je pense que c'est lié à une séquence de la vie politique en Algérie, et c'est lié au fait que voilà, c'est quelque chose de nouveau. Pour l'instant, c'est de l'ordre du supportable, mais il y a des réactions négatives en Algérie aussi. Pour l'instant, c'est pas du tout dramatique. Mais c'est pas du tout gagné forcément pour les 50 ans qui viennent. Oui, ils ne sont pas fils d'Abraham.
Bonsoir. Alors, j'ai une question concernant les personnes musulmanes ou pas. Donc, les personnes que vous avez rencontrées en Algérie qui sont musulmanes ou qui se sont converties, je voulais savoir, en règle générale, quelles sont les motivations de la conversion. Est-ce que ce sont des suicides de la Géorgie? Est-ce que ce sont des personnes qui ont perdu des membres de leur famille assassinés au nom de l'islam, est-ce qu'il y a d'autres motivations? Voilà, je vous pose cette question.
Voilà, là c'est très difficile de répondre parce qu'il y a en fait des parcours très différents. Quoi. Alors, de ce que j'ai pu percevoir, mais là aussi, c'est à travers des parcours particuliers, il faudrait faire une étude sérieuse. On m'a proposé de faire un livre sur les conversions en Algérie, mais bon, c'est assez compliqué. Vous pouvez faire raison. Mais je n'ai pas encore fait le travail d'enquête qui me permettrait de faire un travail sérieux. Moi ce qui m'a frappé en Algérie, c'est que il y a, par exemple, en Kabylie, dans les deux, oui, là, il y a les deux préfectures, vraiment Kabylie, il y a un courant, alors après, l'évaluer en nombre, je ne sais pas, mais enfin, quand même, il est significatif, de gens qui vont se convertir au christianisme pour embêter les Arabes avec un grand Z qui les ont envahis, et que voilà, il se trouve que les Arabes avec un grand Z étant musulmans avec un grand M, ben nous on va devenir chrétiens parce que
on est chez nous et que, voilà, même sur le plan religieux, on va se distinguer. Il y a ce type de motivation. On retrouve ce genre de choses dans la Pologne catholique, où on était aussi très catholique, pour marquer qu'on était anti-russe, orthodoxe et communiste. Nous, on est catholique et polonais, et voilà, et on essaie bien de vous le faire comprendre. Donc, il y a des motifs mêlés qui peuvent être d'ordre politique, hein, ou culturel. Moi, je perçois ça. Hein. Ceci étant, il y a aussi des vraies démarches spirituelles. Quoi. Moi, j'étais profondément ému quand j'ai discuté avec une femme qui était présente à ma conférence en juillet 2006. Elle est convertie, sa famille ne le sait pas, ses collègues ne le savent pas. Et alors là, je vais raconter son histoire, ça c'est un élément de réponse, mais elle, en fait, bon, elle n'a jamais pensé à devenir chrétienne. C'est une musulmane, qui a toujours pratiqué la religion musulmane. Et puis un jour, elle travaillait à la poste à Alger, elle s'est rendue compte un jour qu'une de ses collègues, en fait, était chrétienne. Parce qu'elle était d'origine européenne. En fait. Et puis, au bout d'un certain temps, elle se rend compte qu'en plus, elle est religieuse. Alors, la religieuse en question, elle lui dit, bon, on ne va pas non plus trop en faire, mais bon, maintenant que tu le sais, ok, très bien. Alors, sachant qu'elle est religieuse, elle commence à lui poser des questions sur sa foi chrétienne. Et la religieuse, elle répond à ces questions. Puis à un moment donné, elle lui pose une question, elle pousse un peu la religieuse dans ses retranchements. Et la religieuse lui dit, mais elle lui donne une réponse en faisant des références au Coran. Elle a l'impression que son interlocutrice musulmane n'a pas l'air de connaître ses références coraniques. Elle dit, mais la religieuse dit à la musulmane, tu as lu le Coran? Elle dit, non, j'ai jamais lu le Coran. Donc, il se trouve que c'est une religieuse catholique qui a lu le Coran, et elle n'a pas lu le Coran, donc elle se dit, bon, j'ai l'air un peu bête, hein, je vais lire le Coran. Et elle, ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit, c'est en lisant le Coran que je suis devenue chrétienne. Voilà ce qu'elle m'a répondu. Et en fait, pourquoi? Parce que quand elle a lu le Coran, bon, elle, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé, c'est que j'ai beaucoup de voisins musulmans. Franchement, toute honnêteté, je pense que, grosso modo, avec des gens très simples, je pense que, grosso modo, spirituellement, on vit quasiment la même chose. Et si tout d'un coup, ils lisent dans le Coran, je ne sais pas, un truc comme quoi il faut se méfier d'avoir des amis chez les chrétiens ou les juifs, ils disent ça et tout d'un coup ça les dérange parce qu'en fait c'est pas du tout ce qu'ils vivent eux, ils ont des amis sur terre. Et donc elle, je crois, d'après ce que j'ai pu comprendre, elle a vécu ça comme un décalage par rapport à ce qu'elle était. Alors après elle s'est posé plein de questions, elle a recherché, c'est parti en trois jours, c'est comme ça qu'elle est devenue chrétienne. Ça c'est une histoire particulière. Mais alors est-ce qu'il y en a qui sont. Alors, c'est très intéressant la question de est-ce que c'est par déception de l'islam. Alors. Ce que j'entends parfois chez des. Alors par exemple, on a un ami en Algérie qui n'a jamais demandé le baptême, mais lui et sa famille, en fait, en privé comme ça, se disent chrétiens, mais ils sont obligés de ne pas trop le crier sur les toits. Et alors eux, c'est des cabines, mais eux, je sens vraiment qu'ils en ont vraiment trop vu des massacres au nom de l'islam. Bon, ça ne suffirait pas à expliquer qu'ils soient rapprochés du christianisme, mais bon, par contre, moi, je connais beaucoup de gens qui sont restés musulmans, et qui ont eu ras-le-bord du massacre, mais ils font la différence entre les barbus et puis leur tradition musulmane, à juste titre d'ailleurs, hein, parce que, enfin, à mes yeux, l'islam du Maghreb est de tradition assez ouvert, fraternel. Malheureusement, il y a eu une islamisation par les Saoudiens, les Égyptiens, il y a beaucoup d'Algériens qui sont très conscients. Quoi. Ils s'habillent comme les Saoudiens, ils pensent comme les Saoudiens. Il y a beaucoup de gens qui réagissent par rapport à ça. C'est un peu dit d'ailleurs dans le livre de Keïsa. Ils se sont retrouvés. Enfin, ça a été un des problèmes de la politique d'arabisation sous Boumédienne, c'est que tout d'un coup on est passé du français à l'arabe, ce qui est très légitime, mais il manquait de procès en arabe, donc il a fallu aller les chercher. Et ils sont allés chercher dans le Golfe, chez les Égyptiens, donc ils se sont retrouvés avec des professeurs qui ont un profond mépris pour beaucoup d'entre eux, pour les Algériens, qui considéraient qu'ils parlaient mal l'arabe, qu'ils n'étaient pas de bons musulmans. Donc l'islam, ouais, majoritairement soufi en Algérie, était tenu en suspicion et en dédain, et donc il y a aussi beaucoup d'Algériens qui étaient un peu gênés, c'est pas le même islam. C'est... Donc
il y a aussi des réactions par rapport à cette intrusion étrangère. Mais après, il y a beaucoup d'Algériens aussi qui restent musulmans et disent non, voilà, je n'aime pas les Saoudiens, ils sont gros, ils sont plein de fric, ils sortent des choses comme ça. Sauf pour autant qu'on va devenir chrétien. Parce que, quand même, le fait de vraiment demander le baptême en Algérie, en toute honnêteté, demande un certain courage. Quoi. Il y a un vrai risque. Donc je pense que, en tout cas pour ce qui est d'Église catholique, le simple fait d'en avoir ras-le-bol de l'islam ne suffirait certainement pas pour remplir les conditions d'être baptisé dans l'Église catholique, hein, je parle. Il y a des gens qui baptisent plus, des mouvements chrétiens qui baptisent plus facilement. Et je pense que ça joue aussi dans des prises de conscience et critiques. Et aussi en Algérie, alors les gens le disent très peu, mais j'ai noté qu'il y avait beaucoup de jeunes aussi qui disent de ne plus croire en rien. C'est-à-dire, enfin, vous restez avec eux pendant 3 jours, bon, ils vont à la mosquée vendredi, etc. Mais le moment où vous êtes devenus très amis et qui savent que vous n'avez dit rien à personne et qui craquent, ils vous disent, moi, franchement, je ne crois plus rien. Je ne crois pas en l'avenir de l'Algérie. Et puis, je ne sais même pas si Dieu existe, quoi. Mais bon, ils ne vont pas appuyer sur les toits, quoi. Et bon, en plus, moi, je vais comprendre, hein, j'ai des questions aussi sur Dieu, pourquoi tout ça est compliqué, et pourquoi tant de souffrance, faut que je leur dise, bah c'est bien, je vois qu'on partage les souffrances, même si je n'ai pas traversé tout ce que j'ai traversé. Mais ça je le sens quand même, il y a un espèce d'épuisement, même psychologique, quoi, parce que mettez-vous à la place de gens, je veux dire, quand je suis dans cette famille où c'est 3 filles survivantes parce qu'ils ont oublié l'appartement pour égorger les filles qui ne portaient pas le voile, mais vous imaginez, la police n'a jamais vu, elle dit, mais comment vous vivez? Tout le monde n'a pas vécu ça, mais beaucoup de gens ont vécu ça. Quoi. Pour ajouter là-dessus les tremblements de terre qui ont eu malheureusement, les inondations, et que vous apercevez que bon, il y a des stations de métro à Alger depuis 20 ans, mais qu'il n'y a toujours pas de métro. Hein. Donc vous attendez longtemps quand même le métro. Hein. Alors les Algériens sont plein d'humour vis-à-vis d'eux-mêmes aussi. Heureusement.
Une parenthèse documentaire. Depuis la rentrée scolaire, je donne de mon temps à la bibliothèque du Mistral, à Marseille, au centre Mistral, parking gratuit. On m'a confié la tâche de recenser le secteur islam. Il me passe dans les mains, au long des séances, des dizaines de livres, de toute date, de toute épaisseur, depuis 3 doigts d'épaisseur jusqu'à 1,5 doigt, de toute provenance. Ça m'a épaté, je ne suis pas un érudit, mais ça m'a épaté. Alors je vous signale qu'il y a là une mine. Du mardi au vendredi, là, les après-midi, vous pouvez aller là et vous pourrez lire sur place ou assister l'islam et l'Europe, l'islam, le soufisme, les poèmes, les textes d'origine. Il y a une foule de auteurs français et musulmans, arabes, égyptiens. C'est formidable. Bibliothèque Mistral. Je ne suis pas récipé pour vous entendre.
J'appuie. J'achète des actions du Mistral.
C'est très beau ce que vous dites quand vous parlez de c'est Mohamed qui finalement donne sa vie pour. Alors, c'est vrai que c'est bouleversant, comme c'est raconté dans le livre, mais moi je voulais savoir quel était l'élément déclenchant, qu'est-ce qui vous a amené à la traduction, comment vous avez finalement rencontré ce John Kaiser et quels sont vos liens avec l'islam et l'Algérie.
Bon, pourquoi. Ce matin, j'ai des jeunes qui m'ont dit, bon, pourquoi vous êtes allé. Moi, j'étais banquier avant, à 28 ans, je gagnais quasiment 1 million de francs, pas. Je ne sais pas combien ça fait en euros maintenant, je suis fatigué de faire les 15 000 euros. Enfin bon, tout allait bien pour moi, à 28 ans, je gagnais plus que mon père en fin de carrière, et après je suis rentré dans un monastère. Vous savez, pour les jeunes aujourd'hui, ils ne peuvent pas gagner toujours plus d'argent, ils ne comprennent pas. Ils ont raison d'ailleurs, ce que je leur dis, je suis complètement d'accord avec vous. Je trouve ça bien fou de ne pas se marier, enfin, quel gâchis. Donc ça veut forcément dire que soit je suis cinglé, soit il y a quelque chose qui me prend au trip plus que l'argent ou les belles blondes ou les belles brunes. Donc je ne saurais pas non plus. d'expliquer complètement le fait que cette question de l'islam, des musulmans, pour moi, est devenue importante. J'ai été assez marqué par Charles de Foucault. Et je raconte tout ça dans un petit bouquin autobiographique qu'on m'a demandé d'écrire et qui sort au mois de mars. Donc je pourrais en savoir plus. Mais il se trouve que comme je suis entré au monastère de Tamé, donc après avoir quitté la banque, dans ma prière, j'ai noté ça dans mon petit journal que je tiens depuis 1989, je me suis vu à Marseille, que j'écrivais à l'époque à l'américaine avec un S à la fin, je ne savais même pas écrire en français, honte à moi. J'étais donc à Marseille, entouré d'enfants maghrébins. Parce que j'ai vu dans ma prière, juste avant d'entrer, alors j'étais un peu étonné, ça m'avait marqué, c'est un peu curieux. Donc j'en avais parlé, je me rappelle à frère Didier à Tamé, je lui ai dit, moi je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Et en fait, bon, il se trouve que j'ai pas cherché à venir à Marseille, sauf que je me suis retrouvé par un concours de circonstances. Ici à Marseille. Enfin, j'ai quitté l'abbaye de Tamé pour une raison au départ assez prosaïque, c'est que dans le rythme trappiste, où il n'y a que 7 heures de sommeil, moi j'ai besoin de quasiment une heure de plus. Donc ça va pendant 15 jours, mais au bout de 5 ans, ça finit par être fatigant. Et donc je leur avais dit, bon, ça m'a fait embêtant de manquer tout le temps de sommeil. Et puis cette histoire de Marseille, des enfants du Maghreb, etc., continuer de se trotter la tête. Il est vrai qu'à l'âge de 20 ans, quand j'ai redécouvert la prière, tout de suite, je me suis posé la question de la diversité religieuse. Parce que par alliance, j'ai de la famille juive. Il se trouve que j'ai vécu donc, à New York, à Bruxelles, Paris, dans des conditions très cosmopolites. Que j'ai un très bon ami du Sri Lanka, qui est donc, de culture bouddhiste. Des amis japonais donc, qui sont devenus chrétiens, donc, qui étaient venus du shintoïsme. Enfin, j'ai toujours évolué dans des lieux très, très divers, sur le plan aussi religieux. Et aujourd'hui, j'ai aussi des amis musulmans. Donc je me pose la question de la diversité des religions, et grosso modo comme tout le monde, c'est-à-dire pourquoi c'est tout ce magma de différentes religions. En fait, je suis arrivé à la conclusion que la plupart des religions sont mortes, et que je pense que la liste n'est pas forcément close. Bon, c'est un processus à mes yeux, c'est un processus de découverte de Dieu. Et donc cette histoire de la relation aux musulmans, ben, les musulmans sont très nombreux, et surtout ils sont très présents en Europe. C'est une grande différence avec les États-Unis. Souvent on me dit, mais pourquoi tu ne fais pas retourner aux États-Unis? C'est que si vous allez dans un quartier pauvre aux États-Unis, vous êtes soit avec des communautés d'origine africaine, nos anciens esclaves, soit avec les latinos, moi, la famille cubaine. Mais donc c'est tout ce petit monde de chrétiens, et même s'il y a moins d'1% de musulmans, mais ici c'est intéressant, il y a 10% de musulmans, donc ça bouge, quoi. Et donc ça me paraît un défi plus intéressant, même si c'est plus difficile. Alors après, la traduction proprement dite, c'est en Algérie, donc notre frère Jean-Michel qui habite là-bas toute l'année, un jour, me téléphone et me dit, ben voilà, il y a un livre écrit par un Américain, Gilles Nicolas, qui est l'économiste du diocèse et qui est anglais, l'a lu, je trouve qu'il est très très complexe, et c'est le livre le plus complexe sorti sur le sujet. Il me dit que ce serait bien que ce soit publié en France, est-ce que tu ne pourrais pas le traduire? Alors je lui dis, ben moi je suis bien occupé à Marseille, mais bon, je te laisse les coordonnées de John Kaiser. Donc, John Kaiser, je ne le connaissais pas. J'ai écrit à John Kaiser, je lui ai dit voilà, on m'a demandé de me mettre en rapport avec vous, envoyez-moi un livre, puis je verrai ce que je peux faire pour vous. Et puis, donc il m'envoie le livre, après il passe à Marseille, il vient de terminer un livre sur l'émir Abdelkader, et continuer ses recherches pour son livre sur Abdelkader, en allant en Algérie, donc il passe par Marseille, on prend repas ensemble. Le personnage est intéressant, à bien des égards. Et je lis le livre, je trouve qu'effectivement il est très complet. C'est quand même un gros travail de traduction. Et puis je dis, dans un premier temps, déjà, je vais essayer de trouver un éditeur en France. Une fois qu'on a trouvé l'éditeur, ils auront bien un traducteur officiel, ils n'ont pas besoin de moi. Je cherche des traducteurs, des éditeurs, du mal à faire bouger les grands éditeurs, etc. Et un beau jour, je me retrouve au Mistral, avec Jean-Marc Aveline, que je connais, et qui me dit Henri Miroche des éditions de Nouvelle Cité qui est là et qui me dit qu'il te connaît. Je lui dis, c'est vrai, je connais Henri Miroche, je suis directeur des éditions de Nouvelle Cité, je ne lui ai pas envoyé le livre. Donc je lui dis, ah bah tiens, ça tombe bien, oui, vous, c'est la spiritualité de l'unité, n'est-ce pas, les focolaris, bon, voilà. Bah, c'est exactement le sujet de l'unité. Il me dit, bah voilà, très bien, on le fait ensemble. Et il me dit, mais c'est toi qui traduis. Pourquoi moi? Et il me dit, bah, tu es franco-américain, tu as déjà fait des traductions d'articles, tu as connu quatre des frères sur sept. Le livre met tout ça dans un contexte pas exclusivement religieux, Sciences Po Paris, des études de sciences économiques, tu es professeur de lettres et d'anglais, parfait. Tu as été cistercien pendant plus de 5 ans, donc tu connais les monastères de l'intérieur. C'est une relation avec les Algériens, je suis intéressé par les relations avec les musulmans. Bref, il n'y a aucun traducteur sur les 6 milliards d'êtres humains actuellement sur Terre que je veux remplir ces questions. Donc, devant autant d'arguments massifs, je me suis mis au travail et j'avoue que j'ai fait avec beaucoup d'émotion. Parce qu'une certaine manière aussi, c'était pour moi une manière de faire le. Je m'en suis rendu compte en le faisant, c'était une manière de faire le deuil. Je ne vous cache pas que j'ai lu des lettres d'Algériens pleurant la mort des frères. Je faisais ma traduction, heureusement c'était sur ordinateur, parce que j'en pleurais, quoi. C'est vraiment émouvant. Et donc j'ai vécu avec frère Paul, et quand j'ai quitté Tamier, frère Paul, enfin quand je suis entré à Tamier plutôt, frère Paul lui, donc il était sur le point de partir à Sibérine, et quand il est parti, il avait un humour un peu plein de sourire. Donc il m'avait franchi son sautier, et puis il m'avait dit, ah ben, ça tombe bien, je m'en vais, ben, tu me remplaces. Donc quand il est mort, je me suis rappelé de cette phrase. Et moi, à ce moment-là, quand il est mort, je commençais tout juste à être à Marseille avec un certain Karim de Broucker, donc il est profilé pour un frère du Maghreb. Karim de Broucker qui débarque. Je commence tout seul, au bout de 6 mois, j'ai Karim de Broucker qui débarque. À l'époque, j'étais accompagné par un prêtre qui est devenu après évêque. Et il me dit, ben voilà, Henri, c'est exactement ce que tu veux faire, vas-y. J'aurais préféré être dans un monastère fondé en 1132, parce qu'on a l'illusion de la sécurité. Et bon, je me retrouve là à fonder un truc dans les quartiers un peu différents. Mais bon, c'est l'aventure humaine, etc. Et donc, ça est arrivé au bon moment, et puis, ma tradition a été jugée correcte par un certain nombre de gens. Après, on m'a proposé donc, de faire ce petit livre sur Christophe que je tenais. Et puis là, on m'a proposé un autre livre pour parler un petit peu de ce qu'on vit à Marseille, et voilà. C'est les rencontres. Mais c'était assez troublant, ce livre, parce que c'est vrai que c'est une espèce de récapitulation de ma propre vie à travers ce livre. Donc c'était une expérience personnelle très enrichissante.
Est-ce que les églises évangéliques sont très présentes
en Algérie? Alors, de plus en plus, comme à Marseille, c'est à cause des méchants américains. Il y a beaucoup d'argent, il faut à transporter les montagnes. Donc oui, il y a, comme à Marseille, de plus en plus. Et, donc c'est une vraie question pour les musulmans, parce que bah, eux, ils vont carrément. Hein. C'est une vraie question aussi pour l'Église catholique. Parce que si vous voulez, dans l'Église catholique, en fait, je n'ai pas eu trop de temps de développer ça, mais c'est quelque chose qui m'a toujours frappé, c'est que vous parlez de l'islam à un chrétien d'Orient, il ne mâche pas ses mots, dans la plupart des cas. Parce que, bon, au Liban, ce n'est pas facile, etc. Vous parlez à un catholique en Europe, je parle des catholiques engagés dans l'Église, parce qu'après l'opinion publique est beaucoup plus négative, mais beaucoup de catholiques sont quand même assez ouverts sur les relations avec les musulmans. Et alors chez les évangéliques, par rapport à l'expérience de l'Église, alors l'Église catholique en Algérie, c'est quand même très particulier, par exemple l'Église maronite au Liban, c'est que en Algérie, l'ancienne génération, moi je suis né en 61, donc j'ai pas fait la guerre d'Algérie, je m'estime à titre personnel pas responsable de l'impérialisme républicain qui était d'ailleurs anticatholique et qui a été fait par essentiellement la fin de la République. Donc, enfin bon, quand quand les Français ont débarqué en 1830, je n'étais pas en 62, je n'étais pas non plus, j'étais dans mon berceau à New York. Alors, il semble qu'il y a des décalages de génération qui jouent, et donc chez les catholiques, cette présence chrétienne dans l'Algérie, colonie française, département français, il faut quand même se faire pardonner une présence coloniale, qu'on va critiquer sur un certain point à mes yeux à bon droit, et la guerre d'Algérie qui a été horrible pendant 8 ans, donc il faut se faire oublier tout ça. Et si vous débarquez des États-Unis, vous êtes protestant, pas votre problème. Donc ça change, à mon avis, beaucoup la perception. Il y a des décalages générationnels, c'est moi je vois même que dans l'Église catholique, par rapport à la question de l'islam, et moi-même je me retrouve d'ailleurs sur certaines dispositions, comme je l'ai dit un petit peu au début ce soir, moi je suis pour dire aussi des choses. C'est-à-dire que bon, si je vais en Algérie et que je vois que c'est difficile d'être chrétien là-bas, je ne vais pas accuser tous les musulmans ou l'islam sans réfléchir, mais je me pose forcément des questions. Alors, je pense que les gens qui ont vécu à une certaine époque en Algérie avec des communautés chrétiennes importantes, qui ont vécu les horreurs de la guerre d'Algérie, l'Ouest, ils ont aussi une attitude différente. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes protestants américains qui se retrouvent en Algérie. Pour eux, ils voient beaucoup d'argent en Arabie Saoudite, c'est même un phénomène nouveau depuis les années 70. Les gars, ils construisent des mosquées, ils y vont carrément, pas de repentance sur quoi que ce soit. Et alors, ils se disent, bon, allons-y. Hein. Et moi, ça m'amuse que j'ai des amis musulmans qui me disent, mais Henri, quand tu fais une conférence et qu'il y a des musulmans, tu commences en disant, bon, voilà, moi, je suis chrétien, je suis convaincu d'être chrétien. S'il y a des musulmans à la salle, je vous invite à devenir chrétien et je vais vous expliquer pourquoi. Il dit, voilà, mais comme ça, il faut faire les choses franchement. Ça m'amuse parce que, personnellement, moi j'ai toujours eu horreur de ce genre de procédé, ça ne me convient pas du tout. Bon, c'est un petit personnel, au-delà de questions théologiques, mais je pense que ça rejoint aussi. Et bon, c'est vrai que quelqu'un comme le Père Tessier n'est pas du tout dans, écoutez, voilà, suffit de dire que Jésus est notre sauveur personnel et puis on vous baptise dans les 15 jours. Pas du tout, c'est pas du tout sa manière de procéder. C'est vrai que je me sens très proche du Père Tessier. Je me dis aussi, bon, il y a quelques petits ajustements à faire peut-être, en disant que la situation a changé. À mes yeux, pour les Algériens, moi, mes amis algériens, je leur dis, votre principale menace, ce n'est pas la France. Hein. Je vous dis tout de suite, vous avez les Chinois et les Saoudiens sur le dos, bonne chance. Mais moi, je comprends aussi qu'ils n'aient pas nécessairement cette perception dans les médias. Puisque depuis 1962, s'il n'y a pas d'eau au robinet de la Casbah, c'est la faute des Français. Quoi. C'est beaucoup plus simple. Si on dit que c'est la faute du FLN, c'est gênant pour les élections. Bon, mais en France, vous savez, moi je vis l'anti-américanisme primaire depuis que je suis en France. Hein. Donc quand les choses vont mal en France, c'est la faute aux Américains. Monsieur. Avant, c'est la faute aux Allemands, c'est toujours la faute, surtout pas nous. Quoi. Les Américains, c'est la faute aux communistes, enfin bon, voilà, tous nos boucs émissaires, c'est pratique. Mais donc, les protestants, je crois que c'est un phénomène nouveau, dans la mesure où aux États-Unis, de toute façon, le courant évangélique est un phénomène nouveau aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a eu un profond changement dans les églises protestantes aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, la situation religieuse, bon, d'abord, est très différente de la France, bon, enfin, la question de la laïcité. En France, donc, il y a eu une église dominante, l'église catholique. La laïcité s'est faite contre l'église. Aux États-Unis, c'est des gens profondément religieux qui ont été malmenés dans leur pays, et donc ils veulent la liberté religieuse. Il n'y a que des églises minoritaires. Donc, on fait jouer la concurrence des religions, au lieu d'avoir un État fort contre l'église forte. Donc, c'est une perspective complètement différente. Et le dimanche, c'est 40% de pratique, donc ça n'a rien à voir avec Martin. Et donc, les églises évangéliques américaines, bon, eux, ils viennent d'un pays très religieux, donc ils estiment que parler de Dieu ne se pose aucun problème. Mais en France, parler de Dieu, il faut. Enfin, ça change, hein, mais il faut y aller. Martin, c'est très différent du reste de la France. Je trouve les gens beaucoup plus américains, d'une certaine manière. Mais il faut toujours attendre un petit peu. Voilà, bon. Un peu comme dire combien on gagne aux États-Unis, vous allez dans un avion, vous asseyez, Tu as vu, je fais la religion, j'ai gagné le temps et je suis catholique romain. Voilà. Non, c'est réaliste. Bon, ça peut être très superficiel, évidemment. Mais alors, bon, alors, évidemment, pas là, ça, je pense qu'au départ, il y a une culture très différente. Et donc, quelquefois, j'ai l'impression que bon, mais j'en dirais autant que certains catholiques de mouvements charismatiques qui débarquent en Algérie en disant, ben voilà, si vous êtes un peu timide, bon, vous avez semé, nous on est venu pour récolter, ça va. Bon, moi j'ai 4 personnes qui ont été égorgées, je connaissais, je leur dis, bon, faites attention aux métiers les pieds quand même. Et puis surtout, moi je vois mes amis algériens, dont certains sont musulmans, et qui n'ont pas resté musulmans, mais le fait d'avoir des amis chrétiens dans certains coins, c'est pas évident à vivre, c'est concret maintenant pour eux. Eux, ils ne comprennent pas tout ça quand ils débarquent. Hein. Et bon, je pense que pour faire une autocritique des États-Unis, bon, les États-Unis, c'est 300 millions d'habitants, on vit dans le coin avec une position dominante sur le plan militaire et économique, une connaissance assez approximative de la géographie, et bon, bah, quand on débarque avec nos gros sabots quelque part, on ne comprend pas forcément les subtilités du pays. Mais en même temps, je trouve que c'est quand même important de se poser la question, notre rapport par rapport au passé, voir est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont à changer, etc. Ça mérite d'avoir une oreille attentive. Mais... Le perspective, lui, il dit bon, c'est très compliqué à gérer parce que bon, il y avait un article dans la presse algérienne, on parle des chrétiens, et en fait on parle des mouvements évangéliques, et puis la photo qu'on va prendre, bah, évidemment, c'est Notre-Dame d'Afrique, donc c'est catholique, ou c'est la photo du perspective. Et ça se trouve avec un article où un site qui baptise au bout de 3 jours, que. Il est pour Reykjavik, pression d'indépendance, etc. Et il dit, moi j'ai jamais dit tout ça, quoi. Alors, c'est... Quand on voit qu'il y a eu mort d'homme, on se dit, bon, il y a quand même, c'est pas simplement un déjeuner houleux en famille qui va suivre, c'est quand même des risques. Donc c'est compliqué à gérer.
On s'arrête ?
Oui.
On vous remercie, Henri, pour... Alors, juste un peu de...